Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous prenons Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 13. Matthieu 7 à partir du verset 13. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Je recommence. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, il y a une série de passages bibliques que nous connaissons tous, que nous avons lu et relu, que nous avons entendu. Mais il y a des moments dans la vie, Dieu est obligé de nous rappeler ça pour nous calmer, pour nous reposer, pour nous répondre lorsque nous sommes parfois embêtés. Et dernièrement, j'étais dérangé par la beauté des chants que j'écoutais. Il y a quelques jours, Dieu a permis que j'entre dans la même voiture qu'un dans la voiture d'un frère, et il a mis un CD, et j'ai écouté des chants qui avaient une profondeur, une puissance extraordinaire. Et dans ces chants-là, je sentais, d'ailleurs le titre du CD c'est « La moisson » quoi, « La moisson du printemps ». Je sentais que ces chants-là avaient servi à gagner beaucoup d'âmes. C'est comme si en écoutant les chants, je voyais toutes ces réunions où, à l'époque où ce chant était composé, toutes ces réunions de réveil où il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient, qui se donnaient à Dieu. Je sentais le mouvement qu'il y avait eu à l'époque de la composition de ce chant-là. Et Dieu a permis que je fasse des recherches sur Internet pour voir, parce qu'il y avait plusieurs chants, pour voir un des compositeurs où est-ce que il en est aujourd'hui, et j'ai vu que c'était un homme différent du début. Il avait changé, il ressemblait beaucoup plus à une star du showbiz qu'à un serviteur de Dieu. Et en même temps, je me suis souvenu de l'époque où moi je me convertissais, de l'époque où j'arrivais en France, les mouvements qu'il y avait eu, donc... Il y en a toujours, parce que peut-être je suis pas dans la région parisienne, mais il y a toujours ces mouvements, il y a toujours eu ces mouvements. Mais ça nous, comment dire, on y participe qu'à une certaine époque, on ne participe pas tout le temps à cela, mais il y a eu une époque où j'ai été aussi dans ces réunions de réveil, dans ces réunions qui rassemblent des foules, où on suit un serviteur, il va dans une telle salle, on va, quand on apprend qu'il a... Il y a une autre salle qui a été louée, qu'il passera. On y va encore. Voir des mouvements, des gens, voir des grandes quantités de personnes qui s'avancent quand on dit « Venez recevoir le Seigneur Jésus ». Je me suis souvenu de tout ça. Et aujourd'hui, quand je regarde aussi les chaînes chrétiennes les plus connues, les chaînes chrétiennes... de télévision, God TV, TBN, tout ça. Quand je vois tous ces prédicateurs accrochés à l'argent, accrochés au succès, qui finalement dominent ce monde chrétien, je me dis, mais Seigneur, donc ces moissons-là, ces gens-là qui se sont convertis, mais c'était pour finalement être contrôlés par ces faux prédicateurs qui prêchent pour l'argent, pour le succès, pour leur carrière personnelle, comme des stars de cinéma ou du showbiz. Quand je vois comment les chrétiens se comportent aujourd'hui, Dernièrement, j'ai vu une interview d'un de ces grands pasteurs qui dirige une église de 20 000 personnes, qui reconnaît que, qui avoue, selon lui, les Mormons sont des vrais chrétiens. Même le journaliste qui lui posait la question, il dit, mais pasteur, mais c'est pas possible. Tu dis que les Mormons sont des vrais chrétiens, mais ils sont dans la polygamie, il y a telle chose, telle chose. Eh bien, le pasteur se justifie pour montrer que les Mormons, c'est des vrais chrétiens. Ils ont, on a quand même des points communs. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais toute cette moisson-là, après, c'est pour être déviée. J'ai eu mal. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets qu'il y ait beaucoup de conversions, des mouvements de foule, des gens qui suivent ta parole, qui suivent le mouvement du Saint-Esprit. Et après, si ça doit contribuer après à ce qu'ils soient déviés, pourquoi? J'étais perturbé parce que il y avait un contraste entre la profondeur des paroles du chant. Hein, ceux qui peuvent aller chercher vont chercher meekness and majesty, docilité et majesté, soumission et majesté. Ce chant-là raconte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui était Dieu. Eh bien, il était 100% homme et tout cela était en parfaite harmonie. Jésus, le Fils de Dieu, s'est agenouillé pour laver les pieds des disciples. Quand je lis les paroles de ces chants-là, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Jésus était vraiment le vrai serviteur. Le Fils de Dieu, il s'agenouille pour laver les pieds des disciples. Et la suite de ce chant-là dit qu'il avait une gloire, la gloire même du Père. Mais pourtant, il a obéi jusqu'à la mort, à la croix. Alors, je vois le contraste, bien-aimé, docilité et majesté. Aujourd'hui, quand quelqu'un est majestueux, il se croit fort, il se croit puissant. Mais Jésus était majestueux, mais il était docile, soumis. Meekness and majesty. Quand j'écoutais ce chant, j'ai dit, mais Seigneur, comment les gens peuvent écouter un tel chant et se perdre après? Mais la réalité est là, Matthieu 7. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et la Bible dit, beaucoup le trouvent. Le Seigneur m'a rappelé ce passage-là. Et il m'a rappelé notre passage dans 1 Corinthiens 10 que nous allons lire. Dans 1 Corinthiens 10, nous commençons d'abord par Matthieu plutôt 22, parce que c'est ce que j'ai reçu aussi. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est écrit, bien-aimé. Parfois, on est déstabilisé, mais les réponses sont dans la Bible. Beaucoup sont appelés, beaucoup vont participer au mouvement des réveils. Beaucoup ont suivi Jésus. Beaucoup. Mais quand c'était arrivé au moment de confirmer leur choix, quel était le moment de confirmer leur choix? C'était au moment où Jésus-Christ a été arrêté, Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité. C'était au moment où tous ceux qui avaient suivi Jésus devaient confirmer leur choix, dire, c'est avec toi que nous continuons. En ce moment, ils ont crié, crucifie-le. Crucifie-le. Il y a eu des réveils. La première église a attiré beaucoup de monde. En 2 siècles, presque tout le Moyen-Orient a été converti, l'Asie a été convertie, l'Empire romain du moins a été converti. Mais nous avons vu la conséquence, la suite, c'est le catholicisme qui a pris le relais en imposant 1000 ans de ténèbres sur le monde entier. Il y a eu des réveils, il y a eu des mouvements de foule, mais la Bible est claire. Il n'y a que peu qui réellement iront avec Dieu. C'est écrit. Bien-aimé, ça fait mal. Je suis resté 2 jours triste à y penser. Dire, mais pourquoi tout ce monde-là? Ben, nous allons lire le texte. Je ne prétends pas tout vous expliquer. On va lire et que l'Esprit Saint parle à chacun. Matthieu 22. La parabole du festin des noces. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. C'est la parole que j'ai reçue comme un marteau sur la tête. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup vont entendre la parole de Dieu. Beaucoup vont participer aux manifestations où Dieu est cité. Beaucoup vont écouter ces beaux chants. Beaucoup vont participer à des genres de Pentecôte où il y a du monde qui est là. Beaucoup vont participer à des grands meetings. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il n'y a que peu qui sont choisis. Parce que il faut l'habit de noces. Déjà, il y a tous ceux qui étaient prévus. Tous ces chrétiens-là, tous ces gens-là qui représentent les chrétiens, Dieu les appelle, ils disent non, on est fatigué. Non, il y a des raisons. Finalement, ils ne servaient plus Dieu. Parce que la Bible a dit que c'est ses serviteurs d'abord que le roi a appelé. Il a appelé ses serviteurs. Tous les serviteurs n'ont pas voulu. Ensuite, il appelle les autres, mais il a appelé les serviteurs. Tous ceux qui se disent officiellement chrétiens, Dieu les appelle. Vous savez, il y a un verset qu'on utilise pour les païens, Apocalypse 3:20. « Je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque ouvre. » Mais quand vous lisez la lettre, ce verset-là n'est pas destiné aux païens, c'est destiné aux chrétiens, puisque c'est une lettre adressée à une église. C'est écrit, c'est envoyé à une église. Donc c'est envoyé à des chrétiens. Que Dieu se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un lui ouvre, donc il parle à des gens qui sont officiellement chrétiens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont officiellement chrétiens, qui ont fermé la porte de leur cœur à Dieu. Mais ils s'en rendent pas compte. Comme les juifs à l'époque, ils se croyaient être du Dieu d'Israël, du Dieu de Moïse, de Jacob. Mais ils avaient fermé leur porte parce que Jean-Baptiste était là. Ils ont refusé de se faire baptiser. Les pharisiens ont refusé. Et la Bible dit dans Luc 7:30, qu'en refusant le baptême de Jean-Baptiste, les pharisiens ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie. Ça s'est arrêté là. Quand Jésus est venu, ils ont fermé la porte. Or, c'était le même Dieu qui était là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob était là. Mais ils ont fermé la porte. C'est pourquoi Dieu dit, je frappe à la porte. Apocalypse 3. Il parle à des chrétiens. C'est l'heure pour nous de nous examiner, savoir est-ce que réellement je vis pour Dieu. C'est la grande question. Il frappe et les serviteurs disent non. Et il va prendre, hein, c'est ce qu'on appelle le mouvement de réveil, il va prendre des gens qui n'étaient pas prévus. Ils viennent. Mais même au milieu de ces gens-là, bien aimé, ce n'est pas parce que le salut est gratuit qu'il est léger et négociable. Il est gratuit. Mais pour recevoir ce salut-là, il faut accepter les conditions de Dieu. La gratuité ne veut pas dire faire ce qu'on veut. La gratuité, juste, ça veut juste dire qu'on ne paye rien, qu'il n'y a rien à échange. Mais il faut accepter les conditions de la fête. Il faut accepter les conditions du ciel. On ne peut pas vouloir entrer au ciel si on ne veut pas aimer les gens sur terre. On ne peut pas vouloir entrer au ciel si on ne veut pas arrêter avec le vol sur terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de voleurs. Donc, il faut accepter les conditions du ciel. Aujourd'hui, comme on a vu, j'ai vu dans une chaîne de télévision, on ne nous demande pas de porter des soutanes blanches. On nous demande d'adopter l'attitude du ciel si on le veut réellement. plus tard, si on veut réellement le ciel, sur terre nous devons porter l'attitude du ciel. C'est ça ce vêtement-là. Et cet homme-là, il est dans la fête, on dit, mais oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis venu pour la fête, mais oui, mais où est l'habit? Tout le monde a son habit de noces dans le pays. Toi, tu as cru que c'était une... Tu as pris le... Puisque c'était gratuit, tu as pris cette fête à la légère. C'est pas parce que c'est gratuit que tu dois prendre cette fête à la légère. Il fallait venir avec ton vêtement. C'est quand même une fête de noces. Bien-aimés. Et beaucoup, on leur dira, sortez. Ce n'est pas parce que la campagne d'évangélisation était gratuite. Ce n'est pas parce que l'église, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que la Bible coûte 5 euros qu'il fallait la prendre à la légère. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu connais le français que tu pouvais prendre la Bible à la légère, comme si c'était un livre, comme tous les livres. C'est la parole de Dieu. Et Jésus termine par cette phrase difficile. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. À un moment, je me suis demandé, alors, mais Seigneur, pourquoi je dois prêcher si tout est déjà réglé, enfin, si... Pourquoi le Seigneur m'a répondu, il y a toujours possibilité de sauver quelques-uns. Toujours possibilité de sauver quelques-uns. L'apôtre Paul dit, je me suis fait tout à tous pour en sauver quelques-uns. Voilà. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs. Avec les Grecs, comme les Grecs. S'il fallait en sauver quelques-uns, je les sauve. Alors, si cette prédication peut contribuer à en sauver quelques-uns, que cela soit le cas au nom de Jésus. C'est ça qui est important. Nous continuons, bien-aimés. 1 Corinthiens, à partir du chapitre 9. Il est écrit ceci, chapitre 9, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite mon corps et je le tiens, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, c'est clair. L'apôtre Paul craignait quoi? Qu'il soit lui-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Quand j'étais jeune chrétien, il y avait un débat qui fonctionnait dans l'église dans laquelle j'étais au Maroc. C'était le débat sur l'irréversibilité du salut. Est-ce que on peut perdre son salut? Et il y avait des livres qui montrait clairement que c'était impossible, et il y avait d'autres livres qui montraient que cela était possible. Alors, je ne vais pas faire ce débat, je vais que lire les passages. Et là, nous venons de lire un passage où Paul, qui est un chrétien serviteur de Dieu, pense qu'il pourrait être désapprouvé. Donc, ça veut tout dire. Donc, il peut être désapprouvé. Ce n'est pas parce qu'il a eu son salut que tout est fini. Tant qu'il est vivant, il pouvait être désapprouvé un jour. Maintenant, est-ce que le salut est irréversible? Je ne veux pas répondre à cette question-là. Mais il y a un verset qui dit, c'est la parabole de l'ivraie et du blé. Dieu connaît l'ivraie et le blé. Ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, Dieu connaît qui sera sauvé. C'est son domaine. Nous, on ne peut pas entrer dans son infinie sagesse et puissance pour commencer à réfléchir comme lui. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Le jugement, la condamnation appartient à Dieu. Nous, on nous donne seulement le jugement du discernement. Quand quelqu'un a volé, qu'on puisse voir que la personne a volé. C'est le jugement du discernement, mais pas de condamnation. Le jugement qui définit un homme, c'est Dieu seul qui connaît. De la même manière, Dieu connaît les siens. Mais est-ce que c'est une raison pour dire Mais puisque Dieu connaît tout, alors moi je me laisse aller, puisque tout est fait à l'avance. C'est faux. Toi, tu dois rester à ton niveau. À ton niveau, il y a un choix qui t'est posé, de choisir Dieu ou de choisir la mort. Raisonne localement, ne raisonne pas globalement parce que tu n'as pas la capacité de raisonner globalement, parce que tu n'as pas les moyens. Seul Dieu peut raisonner globalement. Toi, contente-toi de toi-même, de faire ton choix à toi. Et cela est possible parce que sinon Dieu ne laisserait pas Jésus-Christ mourir à la croix. Si son fils est mort à la croix, c'est que le salut de tout homme est possible. Sinon Dieu ne ferait pas un sacrifice inutile. Alors il dit au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Frères, il continue au chapitre 10, « Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. » Alors, Paul, pour expliquer sa crainte, pour prévenir ses contemporains, il dit, souvenez-vous que nous ne sommes pas le premier salut. Il y a déjà eu un autre salut avant nous. Et comme avant Moïse, il y a déjà eu un autre salut à travers Noé. L'apôtre Pierre en parle dans l'une de ses épîtres de Pierre. Il parle du salut du temps de Noé. Il y a eu aussi un salut du temps de Moïse. Le salut pour amener les gens à la terre promise en les sortant de l'Égypte, qui représente le monde en quelque sorte. Il y a déjà eu un autre salut avant nous. Ces gens-là avaient quitté l'Égypte. Il dit attention, souvenez-vous que nous ne sommes pas les premiers à vivre une sorte de salut, à vivre un salut. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui sont sortis d'Égypte. Non seulement, donc ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été sous la nuée, c'est-à-dire il y avait une nuée qui les dirigeait. Donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'ils ont expérimenté la conduite par Dieu directement. Donc il compare la vie de ces juifs-là à la vie des chrétiens. Donc c'est la même chose. Donc ils ont expérimenté la conduite par Dieu directement. Et nous, là, en ce qui nous concerne, la Bible dit dans Jean 16, 13 que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce qu'il fait. Nous expérimentons la conduite de Dieu directement. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont été baptisés. Qu'ils ont été tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc ils sont passés par l'eau. Et nous aussi nous sommes passés en quelque par les eaux du baptême. Nous sommes morts puisque la mer pouvait les recouvrir. Donc en étant dans la mer, ils étaient déjà morts en quelque sorte, puisque si la mer s'est refermée, ils mourraient. Mais ils sont sortis de là. Ils ont été baptisés. Et il dit aussi qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Quel était cet aliment spirituel? La manne. Mais eux, ils ont cru que c'était un aliment matériel. Or, c'était un aliment qui leur a été envoyé pour comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais ce qui vient d'en haut. Puisque la manne venait du ciel. Il fallait qu'ils comprennent que l'homme vit de Dieu et non pas des choses de la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle ça aliment spirituel. Il appelle l'eau qu'il buvait un rocher spirituel, puisque l'eau sortait du rocher. Il appelle ça encore une eau spirituelle. Il dit que cette eau-là, c'était Jésus-Christ qu'il buvait. Mais eux, ils se sont arrêtés au côté matériel. Il dit, en quelque sorte, ces gens-là ont expérimenté la même chose que nous, les chrétiens. Nous avons été sauvés du monde. On a quitté l'Égypte, le monde. On a reçu l'éclairage par l'eau de la parole, on est rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui expérimentent les dons du Saint-Esprit. Il y en a qui expérimentent la puissance du Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. C'est cet aliment spirituel, la parole et le Saint-Esprit que nous avons. Nous expérimentons la conduite du Saint-Esprit comme eux, ils ont expérimenté la nuée. Il dit attention, mais est-ce que tous, ils sont entrés en terre promise? Non! Il dit qu'ils sont, ils sont morts où? Dans le désert. Bien-aimés. Et Paul dit, attention, ça ressemble à nous aussi. Quoi qu'on ait expérimenté le baptême, on ait expérimenté la nouvelle naissance, on ait expérimenté ces choses, attention. Attention à être distrait. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a beaucoup de passages qui disent, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un autre qui dit, travaillez avec crainte à votre salut. Il y a plein de passages, bien-aimés, qui montrent que, je ne veux pas utiliser des mots techniques, ça ne veut pas dire que ces passages-là disent que le salut n'est pas irréversible. N'est pas irréversible. Non, je ne veux pas prendre un mot irréversible et en faire un mot biblique, non. Ça montre tout simplement qu'il y a une partie qui nous est laissée de temps et d'espace pour confirmer notre vocation ou pour clarifier notre position. Donc, ceux qui vont confirmer leur vocation, on va lire ça. Les portes du ciel leur sont largement ouvertes. Ceux qui vont se rendre compte qu'ils avaient fait un mauvais choix, ils clarifient leur position et ils meurent dans le désert. C'est ça la réalité. Mais la Bible nous dit que ceux qui vont clarifier leur position, ils sont plus nombreux que ceux qui vont confirmer leur vocation. Il y en a qui vont clarifier leur position clairement. Moi, quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai cherché l'argent. Laissez-moi avec mon argent. Voilà. Il clarifie sa position. Lui, il est dans le Seigneur, mais c'est pour les sous. Voilà. C'est clair. Il y en a qui vont vous dire, moi, Dieu m'a toujours promis, comme j'ai appris un serviteur a répondu à un frère. Tu sais, frère, moi, Dieu m'a toujours promis que j'aurai de l'argent. Donc, il a clarifié sa position, c'était l'argent. Or, Jésus dit clairement, on ne peut servir deux maîtres. Ou on sert l'un et ou l'autre. Donc, on ne peut pas faire les deux. Donc, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Comme un autre frère qui a participé à une réunion d'église, hein, mais c'était une réunion par rapport aux histoires triangulaires là, ça s'appelle comment, pyramidal, ACN pour l'argent. Et le pasteur dit en introduction, je suis pasteur, mais en ces instants, je mets mon manteau de pasteur à côté, considérez-moi comme quelqu'un qui parle des affaires. Moi j'ai dit voilà, il a fait la clarification. Et la Bible dit, les clarificateurs sont nombreux que les confirmateurs. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui confirme que moi, ce que j'ai choisi, c'est Jésus. Voilà. Prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Alléluia. Et nous continuons. Verset 6, c'est ce qui est important. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ce qu'on vit, ont vécu les Juifs, c'était pour nous servir d'exemple. Car c'est nous qui sommes le dernier salut, le salut total, le salut qui ouvre directement la porte au ciel, le salut qui est connecté directement à la vérité. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc nous sommes le dernier salut, et la Bible dit, tout ce qui s'est passé avant, c'était pour nous assurer à nous qui participons au grand salut, un salut définitif, un salut certain. Comme ça, on peut se servir des échecs des autres pour que nous, on ne tombe plus. Bien-aimé, réveille-toi, ne tombe pas. Si ça a été écrit, c'est pour que toi, tu ne tombes pas parce que toi, tu es confronté au grand salut. Tu ne dois pas laisser l'occasion passer. Ce que tu as saisi, saisis-le une fois pour toutes. Il y a une des phrases qui est donnée à une église de l'Apocalypse, on dit, ce que tu as, retiens-le fermement. Au lieu de s'inquiéter, de vouloir prendre autre chose, retiens d'abord ce que tu as. On risque de t'arracher même ce que tu as. Attention, bien-aimé. Il continue. Ne devenez point idolâtres, verset 7, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. verset 11. Bien-aimé, dans le même passage, il reprend la même chose. Ces choses, verset 11, leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimé, quel avertissement grave. Le même verset répété deux fois. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, pour nous qui sommes face au tournant. Après Jésus, c'est l'éternité. Ça a été écrit pour nous, pour qu'on ne loupe pas. 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Bien-aimés, voilà ce que nous dit Paul. Que c'était une chose de quitter l'Égypte, de quitter la domination de Pharaon, de se diriger vers la terre promise. Mais c'était une autre chose d'entrer dans la terre promise. Il fallait confirmer la vocation. Mais ils n'ont pas voulu confirmer. Parce que Dieu les a fait quitter l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Égypte? On adorait les statues, on adorait des choses visibles. Il les a amenés au désert pour qu'ils s'habituent à adorer le Dieu invisible. Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas confirmé. Mais pourtant, quand ils étaient en Égypte, ils avaient choisi d'adorer le Dieu, l'Éternel. Ils savaient bien que l'Éternel n'est pas représenté par des statues. Ils le savaient. Ils avaient choisi. Mais arrivés au désert, il n'y a plus de statues. Mais ils avaient choisi l'Éternel. Ils devaient s'attendre qu'il n'y ait pas de statues. Et là, moindre crise, ils ont réclamé une statue, un veau d'or. Bien-aimé. Ils ont clarifié leur position. Ils ne voulaient vraiment pas de l'Éternel. Bien-aimé. Je suis pas dans des débats philosophiques. Je dis simplement ce qui est écrit. C'est Paul qui parle là. Déjà, il craint pour lui-même. Deuxièmement, il prend exemple sur les Juifs. Il dit, ils étaient destinés à entrer à la terre promise, mais tous ils ne sont pas entrés. Parce qu'ils ont clarifié leur position de refus de l'Éternel en voulant pratiquer l'idolâtrie. Nous lisons Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous avait été adressée. Il dit, vous avez une vocation. Quelle est notre vocation? De vivre éternellement avec Dieu. Mais comment? Sans le péché, dans l'amour, dans la paix, dans l'unité totale avec les bien-aimés là-bas et avec notre Dieu. Il dit, mais commencez à vivre ça sur terre. Vous marcherez ainsi, donc d'une manière analogue à votre vocation. Prouvez-le que vous voulez de cette vie-là de paix, d'unité, d'humilité, d'amour. Prouvez-le déjà dès maintenant. Vivez d'une manière digne à cette vocation. Il le dit clairement. Et il y a un passage qui est très très important dans 2 Pierre, chapitre 1, 3 à 12. Je vais le lire dans la version Parole Vivante, afin que ça soit bien clair pour nous tous. 2 Pierre 3, de 3 à 12, il est écrit ceci. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être rempli, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruits. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, celui à qui elles font défaut et spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mes frères, Dieu vous a choisi et vous a appelé. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces vérités. Vous les connaissez déjà, je le sais, et vous y êtes fermement attachés telles qu'elles vous ont été transmises. Mais j'estime de mon devoir, tant que je serai encore de ce monde, de raviver ainsi vos souvenirs par mes rappels. Amen. L'apôtre Pierre dit, vous connaissez ça, mais c'est une chose de connaître, une autre de pratiquer. Et qu'est-ce que nous dit ce passage? C'est que Dieu nous a donné la puissance. Il nous a donné Jésus pour que nous puissions vivre selon lui, vivre selon sa volonté. Il a dit, comme on a cette assurance-là en Jésus, comme on a cette puissance en Jésus, alors on peut allier la vertu, la douceur, l'amour, la foi, afin d'affermir notre vocation, de confirmer, voilà, ce que je veux vraiment le ciel. Ce que je veux vraiment une vie où on tape pas les gens, une vie où on tue pas les gens, ou une vie où on ne vole pas les gens, une vie d'amour, de paix, une vie de simplicité. Je le confirme parce que Dieu m'a donné la puissance de vivre cette vie-là et je choisis. Il dit que cette puissance-là serve à confirmer votre choix. Comme Paul nous a dit dans 1 Corinthiens, qu'on vient de lire, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue que soit au-dessus de vos forces. Donc Pierre complète pour dire, nous avons la puissance de vaincre, de marcher comme Dieu. Utilisons ça pour affirmer notre foi, pour confirmer notre choix de la nature céleste. Il dit une chose très importante, il dit, mais si vous travaillez comme cela, en liant l'amour, la foi, la vertu, la patience dans l'épreuve, si vous liez, vous alliez ces choses, vous porterez du fruit avec Dieu. C'est clair. Il dit, celui qui n'a pas ces choses-là, mais qui peut-être veut porter du fruit, il dit, il se trompe, c'est un aveugle. Parce que Dieu travaille avec sa nature. Il ne travaille pas avec les ambitions, il travaille avec sa nature. Et il dit, cherchez cette nature puisque vous en avez la capacité qui vous a été donnée et certainement vous produirez du fruit avec le Seigneur. Et vous confirmerez ainsi votre vocation qui est de ressembler à Dieu, qui est de vivre au ciel. Au ciel, il n'y a pas de plus grand qui puisse se vanter, je suis le plus beau, le plus fort, le plus grand. Il n'y a pas tout cela. C'est l'amour, c'est l'unité. Même si quelqu'un va briller plus que l'autre, ça, il n'y a pas de comparaison. Bien-aimé, il y a un seul qui est le plus grand, c'est notre Seigneur. C'est cela, bien-aimé. Mais sur terre, il y a des rivalités, des comparaisons. Alors, quelle vie tu veux mener? Si tu veux la vie du ciel, Il faudrait que sur la terre, tu acceptes quoi? Quand tu arrives dans une fête, qu'on te mette où? À la dernière place. Tu es dans un groupe, qu'on te mette où? À la dernière place. Si tu refuses la dernière place, donc tu ne veux pas du ciel. Tu n'affermis pas ta vocation céleste. Tu n'affermis pas ta vocation. Tu veux du monde. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, c'est des gens arrivés au désert, ils ont voulu retourner dans leur désir du monde. Et c'est pourquoi Pierre nous dit, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ses autres péchés d'autrefois. C'est lui qui ne pratique pas ce que Pierre dit là. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié sa vie d'autrefois, en quelque sorte. Il pense que avec Dieu, on peut fonctionner dans une logique de rivalité, dans une logique de puissance, dans une logique de plus grand, de plus fort. Non, il n'a pas oublié ses péchés d'autrefois. Avec Dieu, c'est l'humilité, la patience, la douceur, c'est la foi. Tu ne dépends plus du visible, mais tu dépends du ciel. C'est ça, bien-aimé. Il dit, celui qui ne veut pas de ça, en réalité, il veut. Il n'a pas renoncé à son ancienne vie. Et c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Maintenant, nous allons détailler ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Nous reprenons 1 Corinthiens 10. Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 5? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. La Bible dit qu'ils ont eu des mauvais désirs. Et quand ils ont eu des mauvais désirs, eh bien, ils ont cédé face à ces désirs-là. Notre chair aussi, aujourd'hui, peut avoir des mauvais désirs. Mais ce que Dieu nous demande, c'est ce que l'apôtre Pierre nous demande, de nous saisir de la divine puissance qu'il nous a donnée à travers Jésus pour résister à ces mauvais désirs. De nous saisir de la parole de Dieu, de nous saisir de la puissance du Saint-Esprit pour résister à ces mauvais désirs. Ils ont eu des mauvais désirs, nous en avons aussi des mauvais désirs. Mais nous lisons la suite. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, ces gens-là se sont rappelés les fêtes d'autrefois en Égypte, les fêtes des dieux égyptiens. Quand il y avait une fête de Dieu, d'un dieu égyptien, eh ben, il y avait forcément la nourriture, les danses, les rires. Ils ont dit, mais nous voulons aussi ça. Ça nous manque. Peut-être en Égypte, ils ne participaient pas volontairement, mais en réalité, ils se réjouissaient aussi ces moments. Ils viennent de trahir, au fait, ce qu'ils étaient en Égypte. En Égypte, ils pouvaient dire haut et fort, nous avons le Dieu invisible, le Dieu unique, le Dieu éternel, le Créateur. Mais en réalité, dans leur cœur, ils participaient quand il y avait fête. Eux aussi participaient indirectement. Et là, ils ont eu soif de ce genre de fête. C'est comme aujourd'hui, le milieu chrétien a soif de faire comme chez les païens. Donc, comme on a dénoncé dernièrement, il y a aujourd'hui des awards, des récompenses pour des chrétiens. Meilleur chanteur de l'année, meilleur pasteur de l'année. Donc, on veut imiter et on fait tout un show où on va proclamer le meilleur chanteur de l'année, chrétien, la meilleure voix masculine, la meilleure voix féminine. Bien-aimé, la soif de ressembler au monde. Tout un show. Mais là maintenant, ce qui est aujourd'hui, c'est pire. Ça veut dire qu'il y a tout un show où on dit, pasteur, on veut vous remettre, moi j'appelle ça pas Oscar, Rescar, donc Oscar des religions, on te remet ça parce que pendant 20 ans, tu as bâti une église, tu as commencé de 100 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 15 000. Et on montre en film rapide toutes les œuvres de ces pasteurs-là, comment ça a grandi, comment... Après, voilà, une statue, on te donne, bien-aimé. Le pasteur de la Bible, hein, ce qui est écrit là-bas, Dieu refuse les représentations. Donc, on lui donne une statue pour récompense, pour ses 20 ans de... Bien-aimé, L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai construit des églises, j'ai fait de tels exploits. Non, il a gardé la foi. C'était ça. Il se félicitait d'avoir gardé la foi, non pas d'avoir fait des exploits, bien-aimé. Et on donne ça. Ils ont eu envie du monde, des dieux du monde. Bien-aimé, attention à l'idolâtrie. Et aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des sujets d'idolâtrie. Donc quand on voit une église, c'est un pasteur. Donc c'est lui qu'on suit. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, c'est vrai. Mais donc c'est clair que comme il est de Christ, donc on imite Jésus à travers un homme. On ne suit pas l'homme pour l'homme, mais c'est qu'il est de Jésus en lui. C'est ça qu'il faut suivre, bien-aimé. Ne tombons pas dans l'idolâtrie. Nous continuons. Quel autre péché dans lequel ils sont tombés? Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Bien-aimés, ils se sont livrés à l'impudicité en prenant des femmes. Et la Bible dit que 23 000 sont tombés. C'était le piège que leur avaient fait les ennemis. Ils savaient que Dieu ne supportait pas qu'il y ait connexion entre les femmes étrangères et les hommes hébreux. Et ils ont été piégés ainsi. Et aujourd'hui, bien-aimés, il y a la débauche sous toutes ses formes au milieu de nous. Sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il y a des gens, des pasteurs qui divorcent sans problème. Il y en a qui prêchent avec des mini-jupes carrément. Mais c'est le désordre, c'est la débauche. Il y en a qui fêtent des anniversaires dans les boîtes de nuit. Un pasteur, il fête son anniversaire dans un bar. C'est la débauche sous toutes ses formes. Et la Bible dit, il en tombe. Il en tombe. Maladie incurable. Toutes sortes de choses. Bien-aimés, aujourd'hui, je connais dans certains pays, les chrétiens te disent clairement, frère, la Bible c'est la vérité, mais la chair est faible. Oh! La Bible dit dans 2 Pierre que nous avons reçu la divine puissance pour être vainqueurs du mal. 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces à chaque fois. Bien-aimés, on n'en disconvient pas. Nous tous, nous sommes tentés. Il y a des moments où tu crois que tu vas tomber. Mais le Saint-Esprit est fidèle. Dieu est fidèle. Il accomplit ses promesses. Il te soutient au dernier moment. Toujours, bien-aimés. Clairement. Le compromis. C'est ça la débauche, bien-aimés. La débauche, ce n'est pas seulement prendre des femmes et des femmes. Non. C'est la légèreté, c'est la distraction. C'est ça la débauche. On doit se réveiller par rapport à tout ça. On doit se réveiller. Il y en a qui ont fait leur spécialité de prêcher sur le comportement entre hommes et femmes dans le mariage. Ce n'est pas mauvais, mais quand ça devient une spécialité, je n'ai pas vu ça dans la Bible où un apôtre est devenu spécialité. Sa spécialité, c'est de prêcher sur le mariage. Non, le mariage fait partie des domaines de la vie chrétienne. Les mêmes règles de la vie chrétienne s'appliquent au mariage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ayez comme dette d'aimer l'autre. Le devoir que nous avons, c'est d'aimer l'autre. Il y a des règles qui sont dans la Bible. Pratiquons ces règles. Mais là, on va t'expliquer à la femme comment se maquiller. Quelle nuisette il faut mettre. Il y a même un pasteur qui a dit que l'église est comparable avec une femme en nuisette, bien-aimée. C'est la débauche. L'église n'est pas ça, hein. L'église, c'est la Vierge de Sion. Ah oui, oui. C'est la débauche qui s'est installée, la légèreté, la distraction. Il y a des gens qui se comparent en fonction des voitures. Tel pasteur a telle voiture, moi aussi il me faut ça. Telle chose, bien-aimé, c'est la débauche qui s'installe. Il faut refuser ces choses-là. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Voilà qu'est-ce qui est écrit. Ils tentèrent le Seigneur. Quelqu'un peut me poser la question, mais tenter Dieu, c'est quoi? La réponse est toujours dans la Bible. Un exemple. Quand il manquait d'eau, ils ont secoué Moïse. Mais où est ton Dieu? Sors-nous de l'eau. Et Dieu a considéré ça qu'ils l'ont tenté. Un autre exemple. Après, je répondrai à la définition, à l'explication, après, en citant tout cela. Quand Jésus était tenté par le diable, et le diable lui a dit, l'a amené sur le haut du temple, il a dit, jette-toi et les anges vont te porter. Qu'est-ce que Jésus a répondu? C'est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, Jésus a considéré que s'il tombait pour que les anges le portent, ça serait tenter Dieu. Alors, à partir de cela, nous pouvons comprendre c'est quoi tenter Dieu. Un autre exemple pour mieux assimiler tout ça, quand on a dit à Jésus, fais-nous un miracle, Jésus a dit, je ne ferai pas de miracle. Le seul que je ferai, c'est que je mourrai, je ressusciterai le troisième jour. Pourtant, Jésus a fait des miracles. Mais en ce moment-là, il a refusé. Pourquoi? C'était tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est quoi? C'est pousser Dieu à faire quelque chose pour prouver qu'il est Dieu. Ça, c'est le tenter. Parce que Dieu estime qu'il est Dieu. Ce n'est pas toi qui vas faire qu'il soit Dieu ou pas. Ce n'est pas l'exaucement à ta prière qui va faire qu'il soit Dieu ou pas. Le soleil témoigne qu'il est Dieu. La lune témoigne, les étoiles témoignent. Le ciel témoigne qu'il est Dieu. La Bible dit, le ciel raconte la gloire du ressuscité. Ce n'est pas s'il guérit ta mère qu'il est Dieu. Ce n'est pas s'il guérit ton père, ton frère ou ta sœur qu'il est Dieu. Il est Dieu déjà. Si tu veux le mettre au défi comme ça, le défier, Dieu refuse cela. Il ne cède pas à la tentation des humains quand ils le tentent. Ils veulent qu'il prouve qu'il est Dieu. Il le fait pas. Il le fait en ce moment en lui. Quand il décide, bien-aimé. Et eux, ils ont tenté le Seigneur. Ils ont voulu comme l'obliger à faire des choses pour prouver qu'il est Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que je suis chrétien? Je manque d'argent, je manque de ceci. Il y en a même qui ont fait de l'église, hein, leur Dieu. C'est-à-dire, mais le frère, il a trois maisons, il n'a qu'à me donner une. Oh, bien-aimé. Toi, tu dois t'attendre à Dieu. Tu ne vas pas t'attendre à un homme, ni à une organisation. Comme je l'ai dit, bien-aimé, je suis salarié d'une organisation. Le jour où on n'a pas d'argent, je continuerai à rester salarié, mais de Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui s'occupe de nos besoins. Il y en a qui disent, mais non, il a quatre voitures, il n'a qu'à me donner, mais non, mais bien-aimé. Toi, tu dois t'attendre à Dieu. C'est Dieu qui va parler à l'autre pour que l'autre bénisse, bien-aimé. On ne va pas transformer Dieu en banque. On ne va pas le transformer en baguette magique. Dieu est Dieu. Il ne va pas céder aux caprices de l'homme. L'homme veut ceci pour prouver que Dieu est Dieu. L'homme veut cela pour prouver que Dieu est Dieu. Non. Comme il y a des gens, ils entrent dans ton bureau. Pasteur, est-ce que tu as une parole pour moi? J'en ai pas. J'ai seulement la Bible. Si tu veux, je peux te donner quelques versets bibliques. Voilà. Qui vont te faire du bien parce que c'est la parole vivante et permanente de Dieu, comme dit l'apôtre Pierre. Maintenant, si Dieu donne aussi une parole, il donnera en son temps. On ne peut pas l'obliger, bien-aimé. Vous savez, l'apôtre Paul dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent quoi? Les miracles. Nous vivons une époque où les gens courent d'église en église, de manifestation en manifestation pour chercher quelque chose qui satisfasse leur cœur, qui satisfasse leur désir du visible. Bien-aimé, Dieu ne cédera pas à ça. Dieu fera les choses comme lui le veut. Et d'ailleurs, nous qui avons un certain âge dans le Seigneur, nous avons vu beaucoup de gens expérimenter le miracle. Aujourd'hui, ne plus croire en Dieu. Beaucoup, ils ont expérimenté des miracles. Aujourd'hui, ils sont dans les camps des ténèbres. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Parce que si c'était le miracle qui soutenait la foi, Jésus-Christ n'aurait pas refusé de faire le miracle quand on lui a demandé. Il a fait au moment où Dieu voulait pour bénir les gens, pour soutenir la foi des autres, pour manifester la gloire de Dieu. Quand Dieu l'a voulu, et quand Dieu ne l'a plus voulu, il n'a pas fait. Parce que les objectifs étaient différents. Dieu ne cédera pas à la soif de l'extraordinaire de quelqu'un. Dieu fera sa volonté à lui. C'est pourquoi c'est écrit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. » Bien, mais quand on lit la Bible, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1, il dit que nous étions accablés terriblement. On était dans l'épreuve, on a souffert à tel point qu'on a cru qu'on allait seulement mourir. Mais nulle part il dit que Dieu nous a manqué d'aide, Dieu ne nous a pas aidés. Dieu, il reconnaît qu'ils n'avaient pas d'aide, mais il n'a pas incriminé Dieu. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait seulement qu'ils étaient accablés au point où ils pensaient seulement mourir, mais ils ont compté sur quoi? Sur ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'au dernier jour, ils seront ressuscités. Ils ont dit, nous attendions que la mort et la résurrection. Mais Dieu nous a délivrés et nous délivrera encore. Amen. Daniel, les amis de Daniel, quand le roi leur a dit que vous allez mourir dans le feu, ils ont dit, roi, Dieu nous délivrera. Mais, même sinon, sache quand même que nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous préférons mourir dans la fidélité à Dieu. Voilà. Comme il y a des histoires qui racontent qu'il y a des chrétiens qui ont cherché à marcher sur les eaux en Corée, il paraît qu'ils se sont noyés. C'est des anecdotes, on n'a pas vérifié. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre des choses, parce qu'on a décidé de les vivre, qui ne sont même pas utiles. Bien-aimés, nous lisons les épîtres. Prenez, allez chez vous, lisez toutes les épîtres. Cherchez-moi là où un apôtre préconise que cherchez tel miracle. Tel... Il n'y a pas. L'amour, la paix. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour, c'est le don le plus puissant, le plus grand. Et l'apôtre Pierre, nous venons de lire, il dit, il faut chercher la patience à l'épreuve, la vertu, la foi, la simplicité, l'humilité. Il a dit, celui qui n'a pas ces choses-là, il se trompe, il est aveugle, il se trompe de Dieu. Nous avons le Dieu qui est simple, le Dieu qui est grand, qui est fidèle à lui-même. Bien-aimé, Jésus a dit qu'il allait vers le Père. Thomas lui dit, mais montre-nous le Père. Philippe plutôt lui dit, montre-nous le Père. Jésus dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas vu. Mais qui m'a vu a vu le Père. Tu voulais quoi? Que ma tête soit grosse comme une montagne? Non. Tel que je suis là, j'ai la totale divinité de Dieu en moi. Meekness and majesty, manhood and deity. L'homme Dieu bien-aimé. Il a dit, je suis Dieu, même tel que tu me vois avec mon vêtement simple, avec quelques poussières sur mes sandales, Dieu totalement est là. Pourquoi tu cherches à voir Dieu? Bien-aimé, et aujourd'hui, c'est Dieu l'a dit qu'il est en toi. Tu veux chercher où? Tu veux chercher où? Il dit qu'il est dans sa parole, et au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Tu veux chercher où? Tu as ce qu'il faut, c'est Jésus. C'est la Bible, tu cherches quoi? Tu veux tenter Dieu, le forcer à faire des choses pour croire que tu... Non, mais Dieu va te dire, non, on est sauvé que par la foi. Le juste vivra par la foi, c'est écrit. Tu ne peux pas changer le système de Dieu. Les enfants d'Israël ont voulu changer le système de Dieu. L'injurier, l'impressionner pour qu'il soit obligé de faire un miracle, de leur sortir de l'eau, de leur sortir quelque chose. Ah, s'il est Dieu, il n'a qu'à sortir la viande. S'il est Dieu, nous on a soif. C'était du chantage pour que Dieu prouve qu'il est Dieu en assouvissant leur désir. Dieu a dit, vous allez périr dans le désert. Moi, je vous ai amené de Deutéronome 8 dans le désert afin que vous appreniez quoi? Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du ciel. Vous voulez me ramener au pain. Vous voulez me ramener au physique. Vous êtes trompé de Dieu. Vous ne mourrez pas. Bien-aimé, fais attention de ne pas tenter Dieu. Reste dans la ligne de Dieu. Un autre point, bien-aimé, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Bien-aimé, ils avaient tellement envie d'assouvir leurs désirs qu'ils ont commencé à murmurer. Finalement, leurs murmures se sont portés même sur les serviteurs de Dieu. Leurs murmures se sont portés sur le système de Dieu en quelque sorte, parce que les serviteurs de Dieu ne sont que des numéros, ce ne sont que des instruments inutiles que Dieu utilise. En réalité, c'est son système qui est important. Ils font partie du système de Dieu. Alors, tellement ils en avaient, ils voulaient assouvir leurs désirs, ils ont critiqué Dieu. C'était pas suffisant. Il fallait critiquer les représentants de Dieu. Il fallait à tout prix trouver quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, beaucoup sont morts. Il y en a même, la terre s'est ouverte et il y en a qui ont été enterrés dedans parce que ils ont voulu attaquer les serviteurs de Dieu sans raison, bien aimé, sans raison. Tout simplement parce qu'ils en avaient marre de ce Dieu-là. Vous savez, bien-aimés, certains, parfois en lisant, prennent parti pour les enfants d'Israël en disant, mais comprenons, bien-aimés, la manne pendant 40 ans, c'est normal qu'ils aient envie d'autre chose. Bien-aimés, l'envie, c'est soi-même qui créons ça. La nourriture, c'est pour quoi? C'est pour manger et être en forme. On est nombreux ici. Si on cherche quelqu'un qui a mangé dans un restaurant, comment, 3 étoiles, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Peut-être il y a 2 ou 3 seulement. Mais est-ce que vous êtes mort là? Voilà. Il y a beaucoup de Chinois qui atteignent 115 ans, 110 ans, sans avoir eu à manger chez Bocuse. Il s'appelle comment le pape? C'est Bocuse. Hein? Ils n'ont jamais mangé chez lui. Ils n'ont jamais mangé chez... tous ces grands-là, cuisiniers français, mais ils ont 110 ans. Et on a vu des gens comme Yves Montand, il est mort à 70 ans, alors qu'il a mangé tous ces Bocuse-là. 3 étoiles, 5 étoiles. Est-ce que 5 étoiles, ça existe? Non, 3 étoiles. Voilà. Il a mangé, mais il est mort à 70 ans. Il y a des vieux Chinois qui meurent à 110 ans, avec le thé, l'huile d'olive peut-être, bien-aimé. Finalement, la nourriture, c'est quoi? C'est pour être en forme. Et est-ce qu'ils voulaient vraiment la nourriture? Non, ils avaient la nourriture. Bien-aimé, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a très faim faire des choix? Ah! Jamais, hein? Nous, quand on est en temps normal, moi, je mange pas les arachides, hein, mais quand on a fini un jeûne, on me présente des arachides, je file vite. Je mange, bien-aimé. Parce qu'en ce moment-là, tu décides plus. C'est le ventre qui réclame. Il y a un proverbe qui dit « ventre creux n'a point d'oreille ». Donc, il comprend plus. Donc là, c'est la première chose qui passe à l'on avale. Si vraiment les enfants d'Israël étaient en manque, ils mangeraient la manne. Ils n'étaient pas en manque. Ils avaient tout. Ce qui les gênait, c'est qu'ils voulaient se distraire, ils voulaient autre chose, rajouter autre chose. En général, c'est ce qui nous arrive. On a ce qu'il faut, mais on veut encore des extramuros, des choses comme ça. Et voilà. Ça nous amène à notre perte. On a ce qu'il faut, bien-aimés. Ils avaient la manne. Beaucoup diront, mais pendant 40 ans, mes bien-aimés, quand tu as faim, même pendant 40 ans, ça va rien te faire. Il suffit seulement, si tu en as marre, de faire une journée sans manger. Le soir, tu mangeras. Souvent, les enfants, on leur fait comme ça. Ah, je ne veux pas manger ça. Ben, il n'y a rien. 2 heures du temps après, vous observez, il est parti, il a contourné, il a mangé. Parce que la faim, ça commande. Et après, on ne s'est plaint plus, bien-aimé. En réalité, les enfants d'Israël n'avaient pas faim. En réalité, ils n'en avaient pas marre de la manne. En réalité, ils avaient des désirs personnels. La manne leur suffisait. Vous savez, on est en France. Il y a combien de sortes de fromages? Plus de 300. Mais on fait du fromage avec quoi? Du lait, hein? Rien que le même lait produit 300 fromages. Donc ça veut dire que la manne avec des bricolages, ça pouvait produire 500 plats, puisque ça venait du ciel, bien-aimé. Ils pouvaient toujours en faire la manne séchée, la manne cuite à l'huile d'olive, la manne... ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent, avec un peu de raisin sec. Ils pouvaient. Mais c'est les envies de l'homme. Les murmures sont venus par les envies. L'homme a des envies injustifiées. Ça fait, il y a des gens, il y a une belle voiture. Dès qu'il voit son ami retraité qui vient de s'acheter pour se reposer une plus grosse, il est malade. Pourtant, hier, il trouvait que sa voiture était belle. Et aujourd'hui, ça a changé parce qu'il a vu quelqu'un d'autre. Il n'avait pas ce désir-là. Mais c'est la jalousie qui a amené cela. Bien-aimé, beaucoup de choses que nous considérons comme de vraies envies ne sont pas de vraies envies. C'est des choses poussées par le diable et poussées par la chair. En réalité, Dieu nous satisfait chaque jour. Mais c'est nous. La Bible dit que Dieu a fait les choses droites et les hommes cherchent des détours. Ils cherchent des détours. Quand tu es en paix avec Dieu, tout est bon. Ta voiture, c'est bon. Ton lit, même s'il y a quelques trous, ça va. Tout est bon, tu dors tranquillement. Alors que le Michael Jackson, il avait tout, mais il n'arrivait pas à manger. Il avait tout, il n'arrivait pas à boire. Fallait qu'il se pique pour se sentir bien. Voilà. C'est la preuve que ce n'est pas ça qui donne le bonheur, c'est Dieu qui donne tout cela. Dieu sait satisfaire. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu donner la vie en abondance. En abondance, bien-aimés. Voilà ce qui les a fait chuter. Et ils ont commencé à murmurer. Ils ont refusé la façon dont Dieu décidait. Dieu décide qu'on fasse ceci. Ah non! Dieu décide qu'on fasse... Ah non! Ils veulent leur manière à eux. Dieu envoie des espions. Allez espionner là-bas. Voir si voir le terrain. Dieu ne les a pas envoyés pour la guerre. Il les a envoyés pour leur donner envie de quoi? De conquérir. Dieu n'a pas envoyé ces espions-là pour une stratégie de guerre comme les espions d'aujourd'hui. On les envoie pour voir les failles du pays, pour voir les faiblesses du pays afin d'attaquer le pays. Mais les espions de Dieu étaient partis juste pour donner envie aux gens d'aller affronter les géants. Il y a les géants, mais la terre est tellement belle, on peut prendre le risque avec Dieu d'affronter. C'était pas pour voir les faiblesses, parce qu'en réalité, ils ont vu qu'ils étaient des géants. Ils ont vu qu'ils étaient forts. Mais c'était pour voir qu'il y a, la terre est belle. Il y a le lait, il y a les raisins, il y a tout cela. Et il fallait que ça donne envie aux gens de se dire, mais tiens, pour ça, on est prêt à risquer notre vie. Pour une telle terre. C'est comme nous. La Bible nous donne envie du ciel. Avec l'Apocalypse. On voit déjà comment le ciel est bien aimé. Une ville en or. Il n'y a pas de temple. Dieu lui-même est le temple. Bien aimé. Le Dieu que tu cherches là, parce que tu veux que tu t'agites, que tu sentes que Dieu est là, mais au ciel, tu seras face à face à lui. Face à lui. Le Dieu que tu cherches là dans les dons spirituels, au ciel, tu l'auras face à face. Ne mets pas en danger ce face à face là pour les choses de la terre, même si elles sont dans l'église. Il faut que tu gardes ta foi en Dieu, tu gardes ta paix, tu gardes un comportement lié au fruit de l'esprit qui te qualifie pour le ciel. Ce sont les gens qui ont le fruit de l'esprit qui sont qualifiés pour le ciel. Ce ne sont pas les gens qui manifestent des puissances, qui composent des chants extraordinaires, mais ce sont ceux-là qui se maintiennent dans le fruit de l'esprit. Comme Paul dit, je prêche aux autres et je fais attention à moi-même parce que je risque d'être disqualifié. Ce ne sont pas les grands prédicateurs qui sont qualifiés pour le ciel, mais ce sont ceux qui se maintiennent dans le fruit de l'esprit. La paix, la bonté, l'humilité, le pardon, la sainteté, l'amour, la patience, la douceur, la bienveillance. Ce sont ceux qui s'accrochent à ces réalités-là, qui verront Dieu face à face pendant des milliards d'années. Alors qu'aujourd'hui, tu te bats pour un poste de pasteur, tu te bats pour un poste de prédicateur. Mais au ciel, les anges chanteront les louanges. Toi aussi, tu chanteras les louanges. Alors, vaut mieux se battre pour la vocation céleste. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimés. Nous devons pas faire comme ces gens-là. Ils ont contesté Dieu. Ils ont voulu, ils n'ont plus pas voulu les méthodes de Dieu. Mais nous devons nous soumettre à la Bible. Affermir notre vocation, bien-aimés. Il y a une possibilité de salut. Aujourd'hui encore. Le but de cette prédication, ce n'est pas de condamner, mais c'est de nous amener à prendre les choses au sérieux. C'est la nature de Dieu qui compte. C'est ce qui nous qualifiera pour le ciel. C'est de nous amener à se dire que ce n'est pas fini. Si on est vivant, nous devons affermir notre vocation. L'apôtre Paul, si vous pouvez relire s'il vous plaît à la maison ce passage-là de 2 Pierre 1, 3 à 12, il dit, lisez ça sur la parole vivante, c'est beaucoup plus clair. Donc, si vous grandissez sans cesse dans ces valeurs-là de l'esprit, les portes du ciel vous seront largement ouvertes. Largement ouvertes. Ce n'est pas le succès qui amène au ciel. C'est la parole de Dieu. C'est la nature de Dieu qui qualifie pour le ciel. C'est très important. Ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, on mesure les chrétiens forts en fonction de leurs finances. Dans certains milieux évangéliques, il y a des pasteurs qui disent, oui, mais si je n'étais pas avec Dieu, comment Dieu m'aurait-il donné cet immeuble-là? Mais bon, bien aimé, il y a des gros païens qui ont des plus grands immeubles, des gratte-ciel même. Ça ne fait pas d'eux des gens qui sont choisis de Dieu. Voilà. Large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin de l'argent. Le chemin du succès humain. Le chemin de la mode. Le chemin du showbiz chrétien. Large est le chemin. Vous savez, il y a un chant de chanteurs sataniques, ACDC. Le titre, c'est Highway to Hell. L'autoroute pour l'enfer. Donc les satanistes eux-mêmes reconnaissent que pour aller en enfer, c'est une autoroute. Eux-mêmes ils reconnaissent que c'est très large la route qui amène en enfer. C'est eux-mêmes qui reconnaissent ça. Et nous, les chrétiens, nous savons que pour aller au ciel, le chemin est petit. Il y a que il ne peut contenir qu'un seul homme à un seul endroit. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et donc pour rentrer au ciel, il faut passer par Jésus. Le seul chemin. Il n'y a pas d'autre place. C'est étroit. C'est fait que pour faire passer un homme. Et Jésus prend et cet homme-là. Et nous, on passe par Jésus, on entre. C'est cela, bien-aimé. Accrochons-nous. N'oublions pas. Le chemin qui mène au ciel est étroit. N'oublions pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de restrictions, beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques, beaucoup d'oppositions. Mais il faut être ferme. Il y aura des choix de vérité à faire où tu seras rejeté. Mais il faut être ferme. Il faut savoir ce qu'on a choisi. Il y a des moments où on sera obligé de dénoncer des choses mauvaises qui vont faire que beaucoup de chrétiens seront contre nous. C'est un choix à faire. Bien-aimé, tant que c'est Dieu qui le veut, tant qu'on ne le fait pas pour satisfaire notre chair, tant qu'on le fait dans une logique de vérité, comme les Jean-Baptiste, comme Jésus l'a fait à un certain moment, comme les Paul aussi l'ont fait, eh bien, acceptons la contradiction, l'opposition, le rejet, mais restons dans la vérité, bien-aimés. Que personne ne nous sorte du chemin. Que personne ne nous sorte du chemin. Ni une église, ni un pasteur, ni des chrétiens. Parce que Moïse a été sorti du chemin par le peuple. Toi qui es pasteur, toi qui es serviteur de Dieu, que le peuple ne te sorte pas du chemin par des exigences qui sont futiles, qui ne sont pas de Dieu. Reste dans la vérité. C'est ça, bien-aimé. Certains sont en formation. Tu vas servir Dieu. Ne te laisse pas influencer par les humains que tu diriges, qui voudraient assouvir leurs désirs en prétextant la Bible. Non, reste dans la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. C'est le chemin que Dieu nous a donné. C'est Jésus. C'est la Bible, bien-aimé. Restons fermes dessus. Tout doit être décidé à travers la Bible, non pas à travers les yeux. Nous marchons selon la foi et non selon la vue. Soyons fermes, bien-aimés. Les temps sont durs. La pression est grande. Il y a deux pressions. La persécution, l'opposition, mais il y a aussi la séduction, la flatterie, la gloire humaine. Refusons les deux. Résistons aux deux plutôt. Et choisissons la simplicité avec Jésus. Meekness and majesty. Ha! L'homme Dieu qui s'agenouille pour essuyer les pieds des humains. Aïe, 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 bien aimé. Quand je pense à ça, j'ai dit non, c'est le véritable serviteur de Dieu. Ah oui, prions le Seigneur. Merci Père éternel de nous aider à suivre Jésus, le véritable serviteur. Celui qui n'a pas cédé à la pression du peuple qui voulait faire de lui un roi. Celui qui n'a pas cédé à la pression de Hérode qui voulait le voir faire des miracles. Il n'a même pas répondu à Hérode. Oh Seigneur, celui qui n'a pas cédé à la pression de Pilate pour se défendre, il a dit, je ne me défends pas. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je me tais. Je suis venu témoigner de la vérité, pas me défendre. Oh Seigneur, nous voulons être simples comme toi. Nous voulons être ferme comme toi. Tu as été ferme. Tu pouvais être libéré si tu reniais ta parole. Mais tu as refusé. Tu es parti. Tu es allé jusqu'au bout. À Gethsémane, tu as tremblé. Mais tu es allé jusqu'au bout. Tu as refusé de reculer. Seigneur, nous voulons affermir notre vocation. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui font des clarifications, de changements avec toi. Nous, nous voulons être ceux qui confirment que c'est toi que nous avons choisi. Nous avons choisi la vérité. Nous avons choisi la simplicité. Nous avons choisi la soumission comme toi. Oh, tu as choisi la soumission jusqu'à la croix. Alors que tu avais la capacité de ton Père, mais tu as préféré la soumission. La Bible dit, c'est pourquoi ton nom a été élevé au-dessus de tout nom. De sorte qu'en ton nom, Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, dans l'affermissement de cette vocation. Aide-nous, Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. D'ailleurs, tu nous l'as dit dans Jean 15, que sans moi, vous ne pouvez rien. Oh Jésus, viens régner dans nos vies. Viens régner, nous t'invoquons. Nous refusons le showbiz chrétien. Nous refusons la course au succès. Nous refusons la course au miracle. Nous refusons la course au spectaculaire. Nous refusons la course à l'argent. Nous refusons la course à l'égoïsme. Nous refusons la course au star system, Seigneur. Nous refusons cela. Nous voulons la simplicité avec laquelle tu allais de ville en ville prêcher l'évangile. Nous voulons la simplicité avec laquelle les apôtres faisaient des miracles. Oh Seigneur, parce que nous croyons que celui qui s'attache à toi, oh, il est écrit, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui s'attache à toi, il est écrit, les miracles l'accompagneront. Il n'a pas besoin de chercher, ça viendra. Alléluia. Merci Seigneur de régner dans nos cœurs. C'est le choix que nous faisons, Seigneur.